14h01. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. Ça va, tu me regardes
c'est
avec des gros
Toon
yeux.
C'est dans ce petit bruit-là.
Oui.
J'entendais comme si quelqu'un frappait sur un micro.
C'est juste la basse, je pense.
Allô, Nathan?
Allô? Non, j'essaie d'entendre le son que t'entendais. Pense pas que c'est dans Toon. Pense que c'est dans ta tête.
Ça se peut.
C'est pas qui cogne, mais...
À cette heure-ci, là, tout est possible. Tout est possible.
Ah, oui, effectivement. Faites la même chose que nous. Une grande inspiration, une belle expiration. On s'installe pour les 4 prochaines heures de radio ensemble. Votre trio du retour à la maison à Boulevard 102.1 en mode estival. Véronique Bergeron, bonjour.
Allô, Nathan Meilleur.
Antonine Iaccarini, bonjour.
Bon lundi? Non, c'est vendredi maintenant.
C'est vendredi maintenant. Donc, vendredi pour les mêlés, peut-être comme nous aussi. Très content d'être avec vous, comme je le disais, pour les 4 prochaines heures. Évidemment, émission 100% parlée. On va couvrir l'actualité et même si c'est vendredi, il y en a beaucoup. Évidemment, ce qui retient l'attention énormément dans les dernières heures, c'est l'arrestation de Al Boivin. T'as ri de moi?
Non.
L'arrestation? Quand tu arrêtes quelqu'un, c'est une arrestation. OK? Bon. Alors, c'est vendredi pour tout le monde. On espère vraiment que vous êtes dans le même mood que nous. Si vous avez passé une mauvaise semaine, ou une mauvaise journée, ça n'a pas bien été, restez accrochés à 102.1. Nous autres, on va vous coller un sourire d'en face, c'est sûr et certain.
Oui.
Parce que même si la température est grise, même s'il y a des points qui sont lourds dans l'actualité, on s'est assuré de vous préparer une émission qui est bien équilibrée.
Oui, je pense
aujourd'hui.
Qu'on est le meilleur des deux mondes.
On va un peu partout. Aujourd'hui, on va parler entre autres des vacances, on va parler de la Coupe du monde de soccer aussi qui retient l'attention parce qu'on en parlait un peu plus tôt cette semaine. Chaque pas que le Canada fait devient un pas historique, évidemment, parce qu'on ne s'est jamais rendu là. Il y aura un match important dimanche. Bref, on va vous amener un peu partout. Juste ouvrir avec la météo, c'est 17 degrés actuellement à Québec. C'est des averses depuis le début de la journée. C'est une journée comme ça qu'on attendait, donc pas de surprise. 40 % de probabilité d'averses pour ce soir et cette nuit. Demain, on parle d'alternance entre soleil et nuages et d'un 30 % de probabilité d'averse en après-midi avec un risque d'orage. Et là, je reviens là-dessus. Parce qu'on en a parlé de ça hier aussi dans l'émission avec Maud du village vacances Valcartier. Le fameux 30 % de probabilité, on ne le lit pas de la bonne façon. C'est pas il y a 30 % de chances qu'il pleuve, c'est qu'il y a 30 % du territoire couvert par l'application qui pourrait recevoir de la pluie.
Et mine de rien, le territoire de Québec est tellement grand que dimanche, quand il pleuvait en fou dans le secteur de Saint-Og puis Sainte-Foy, moi, j'étais dans le coin de Charlebourg puis il s'est rien passé à part un 2 minutes d'averse.
Mais ça a été la même affaire, nous autres aussi, du côté de Limoilou. On était dans le parc à Pointe-aux-Lièvres. On a vu le nuage passer devant nous.
C'est
on voyait
ça,
la
hein?
ligne claire.
On
a reçu 3-4 gouttelettes. Écoute, si j'avais pu, je pense, les attraper puis les relancer dans le nuage en leur disant « Je pense que vous vous êtes trompé de spot. » Parce que clairement, il n'y avait pas rapport là. Mais c'est ça, de prévoir ces activités en conséquence de ce qu'on voit avec les applications, c'est peut-être pas... C'est un outil, mais c'est pas un juge.
Mais
je le dirais de cette façon-là.
Ne vous fiez pas à l'icône.
Voilà.
Cliquez dessus, puis regardez quantité de pluie.
Petit détail.
Puis souvent, c'est pas toute la journée, c'est quelques gouttes de pluie. Faut pas se dire « Ah, il y a une goutte de pluie dans l'icône, je reste chez nous puis j'annule toutes mes activités. »
C'est comme une application de dating, là.
Ah,
la
moi, première... je connais rien là-dedans. Raconte-moi.
Moi non plus, mais j'allais dire. Tu sais, la photo, sur le coup, t'es peut-être pas ça, mais dans le détail, il y a peut-être quelque chose qui va fitter pour toi, là.
On sait pas.
C'est ça. Fiez-vous pas juste à l'icône.
Fiez-vous pas au fait qu'il y a une fille sur sa photo, puis
des enfants.
Face,
c'est ça.
Non.
Non, c'est ça. C'est pas parce que t'as un scorpion tatoué sur l'arche de l'œil que t'es une mauvaise personne.
Exact.
Ça veut rien dire, ça. Ça peut être juste une mauvaise décision de gaucho aussi. Ça peut arriver.
Ouais.
Tout ça pour vous dire que, d'après moi, en fin de semaine, on va avoir de très, très beaux moments aussi parce qu'on attend quand même un maximum à 24 demain, 27 avec l'humidex. C'est un scénario assez similaire pour dimanche, alternance entre soleil et nuages avec des probabilités d'averse. Encore là, un maximum à 24. Puis ce qui me laisse croire que dimanche pourrait vraiment être une belle journée ou du moins une belle demi-journée, c'est qu'à partir de lundi, mardi, là, c'est vraiment du beau temps qui s'installe puis on attend 28 au thermomètre. Et il n'y a pas de pluie d'annoncer pour l'instant avant mercredi. Donc, quand on lit un peu en diagonale, comme ma collègue Sylvie Goulet m'a appris à le faire à la météo, avec une journée comme celle-là, lundi-mardi, il va falloir que ça se dégage à un moment donné. Donc, possiblement que dimanche, on va avoir une bonne partie de la journée qui sera magnifique. Très content de s'installer avec vous encore, de m'installer avec vous encore, mesdames, aujourd'hui. Je le rappelle, C'est un privilège pour moi de faire de la radio avec vous parce que tout est dans l'équilibre. Vous êtes deux femmes excessivement brillantes. Vous êtes deux femmes pertinentes. Vous êtes deux très, très bons talents de radio.
J'attends juste le niaiseux qui va arriver à
un
moment donné.
Oui, y a-tu un pot?
Non. Ben, je pense que c'est moi le pot dans cette équipe-là.
Fleurs.
C'est juste des fleurs.
Merci.
Parce qu'on parle d'équilibre. Fait que de l'autre côté, au niveau de l'impertinence, je vous laisse deviner à qui revient le rôle. Juste pour vous dire que c'est ça. On va parler d'actualité, évidemment, dans cette émission-là aussi. Puis... je sais pas si, parce que là, j'ai parlé de la température, Véro, en fin de semaine, puis je sais que tu nous as envoyé ça un peu plus tôt, puis je te lance un peu la balle au bon, là, mais c'est qu'avec la température, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi qui se réunissent à Québec en fin de semaine parce qu'il y a le Sail Challenge.
Oui, le triathlon Challenge Cap Québec.
Challenge Cap Québec. Le Cap Challenge, en fait, qui est un événement qui est très, très connu, un peu partout, qui s'est installé à Québec il y a quelques années, qui... est de plus en plus connu, mais passe un peu sous le radar quand même. J'ai l'impression que là, cette année, puis l'année précédente, peut-être gagne en popularité, mais Formule Triathlon, qui est dans le secteur de la Basse-Ville de Québec, dans le secteur du Bassin-Louise. Donc, c'est sûr qu'il y aura des entraves à la circulation en fin de semaine. Ça, c'est peut-être à prévoir.
Oui, puis il y en a même qui vont commencer dès ce soir, 18h. C'est le cas du pont-tunnel Joseph-Sanson, qui permet de traverser la rivière Saint-Charles là, à partir de 18h aujourd'hui. Et la circulation reprendra seulement lundi matin, 5h, mais vraiment dans les coins de l'autoroute du Frey-Montmorency en direction Sainte-Anne de Beaupré. Il y aura des fermetures qui vont se faire cette nuit puis dans la nuit de dimanche aussi. Puis pendant les épreuves, vous comprendrez que la première rue va être fermée à la circulation entre la 8e et le boulevard des Capucins. Il y a aussi des portions du parcours, de ce qu'on peut comprendre, là, du parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui le sera aussi. Fait que vous pouvez aussi aller sur le site de la Ville de Québec qui a une belle petite carte avec toutes les entraves. Là. Fait que si c'est des secteurs que vous devez fréquenter en fin de semaine ou si vous voulez encourager les gens qui y participent, bien, ça peut être votre point de chute.
Sur le bord de la rivière Saint-Charles, justement, dans le parc linéaire, ça peut être super le fun. Vous vous installez pas trop loin d'un parc avec les enfants. Vous allez encourager un peu. Les enfants sont tannés d'encourager. Oups, peuvent aller dans le parc aussi. Puis je vous garantis qu'il reste juste à ce que le monsieur ou la madame tasse les barrières. Là, parce que tout est déjà installé. Moi, je suis passé où le tunnel ce matin, puis les cônes, les clôtures, tout est déjà là,
tout est
en place. Il reste juste à les positionner. C'est les vacances d'été qui débute et on avait envie de discuter de ça avec vous. Est-ce que vous avez tendance, comme parents, des fois, à vous laisser emporter pendant les vacances d'été, même si vous vous êtes fixé un budget, même si c'est déjà clair, net et précis, les activités que vous allez faire?
Là, tu parles aux parents, mais tu peux parler à n'importe qui est en vacances, qui se laisse emporter par l'ivresse de « on est en vacances, on a le droit, on le mérite ».
Exact.
Le temps qu'il y a, là. Oh, ouais. Tant qu'à y être. Oh, tant qu'à être là. Oh, tu sais, on prend-tu un autre spray de Saperole à 125
piastres? Je te dirais que les enfants sont quand même un facteur d'achat et de dépenses supplémentaires.
C'est que les exemples que j'ai à vous présenter, c'est concernant les pires dépenses à faire en famille durant l'été. C'est un article de Philippe Côté-Giguère dans le Urbania. Puis Urbania, ils ont une filiale qui s'appelle Molo, qui s'adresse plus aux parents. Puis je me suis abonné à l'infolettre de ça il y a quelques mois déjà. Puis il y a des articles que je trouve bien intéressants comme ceux-là parce que des fois, c'est pas tant des conseils plus que de se reconnaître comme parent. Parce qu'on se compare beaucoup avec les réseaux sociaux. On va se mettre beaucoup de pression pendant les vacances d'été parce que nous aussi, on veut donc bien être des créateurs de souvenirs extraordinaires pour nos enfants.
Alors que... il y a beaucoup de mes souvenirs d'enfance dans lesquels mes parents ne sont pas impliqués.
Ben.
Mais je peux vous faire... l'idée de faire des potions magiques ou des parfums avec un seau à côté du carré de sable en ramassant tout ce qu'il y a de fleurs, puis c'est dégueulasse. Antonine, hoche la tête, toi aussi, t'as vécu ça?
Ben moi, en fait, c'était des poisons. Les potions magiques, c'était pour que les voleurs s'empoisonnent.
Ah,
je mettais ça sur le balcon.
Puis
là, évidemment, le voleur voit la potion. Qu'est-ce qu'il fait? Il aboie.
Il aboie, ben oui.
Ça a tellement l'air ravitant.
Ben,
brun vert de même.
Puis là, ça tuait les voleurs.
Ça, c'était une bonne technique pour éloigner les voleurs. Moi, je collectionnais les chevilles, les chenilles.
Pardon?
Pas les chevilles. Colin, ça va être long, chaud.
Ils t'ont bien réhabilité.
Je collectionnais les chevilles.
Ça fait encore, ils viennent m'arrêter là.
Non, mais c'est ça. Vous avez pas remarqué mes bracelets de chevilles, justement? Dans les... non, mais c'est les chenilles, moi, que je collectionnais quand j'étais petit. Puis je les collectionnais dans mes poches.
Oh, pauvre chenille.
Fait que je mettais ça dans mes poches, mais écoute, je savais comment faire. Je leur mettais une coupe de feuilles, je leur mettais deux, trois cailloux.
Un Tupperware, ça te tentait pas?
Non, non. Puis vous en parlerez à ma mère qui adorait ça.
Qui à l'époque.
Ben, en fait, c'est que des fois, elle oubliait de checker mes poches avant de partir le lavage. Fait qu'imaginez ce que ça
faisait.
Un lavage de chenilles dans les poches. Mais souvent, c'est ça. C'est ces petits détails-là qui vont faire une différence immense. Puis dans les exemples que j'ai à vous présenter aujourd'hui, là, les fameux jouets de plage cheap.
Oh mon Dieu, oui. Pour faire des châteaux.
De vouloir arriver à la plage puis d'avoir le gros setup au grand complet qu'on a magasiné des fois sur Amazon ou encore au Dollarama. Puis quoi que je donne l'exemple du Dollarama, honnêtement avec vous, dans les dernières années, Dollarama, ils ont vraiment de magnifiques produits, là, dont les petites chaudières qui se replient sur elles-mêmes puis qui rentrent dans une valise là, quand tu pars en voyage. Ça, c'est vraiment génial. Mais ça coûte cher d'acheter cheap. Ça, c'est un rappel qui est fait dans cet article-là. Ça vaut la peine, des fois, de payer un peu plus cher pour avoir une bonne chaudière, une bonne pelle, puis votre enfant va passer l'été avec, plutôt qu'être obligé de jeter ça à la fin de votre journée à la plage. De un, c'est zéro éco-responsable. Puis de deux, finalement, à la fin de l'été, ça va vous avoir coûté 15-20 piastres de chaudière à une pièce de la chaude, de toute façon.
Dans le dépotoir. Mais les trucs gonflables particulièrement. C'est tellement pas durable.
Ah ouais, ça, c'est... Puis tu sais, nous, on a une piscine hors terre à la maison. C'est une 12 pieds, elle est tout petite. Fait que quand il y en a trois... Il n'y a plus de place pour les enfants au grand complet. C'est fou.
Non, c'est vous, les enfants.
Mais c'est tellement pas gros, les filles, que quand on les laisse là, quand on les laisse dans la piscine, ces cossins gonflables-là, des grosses journées de chaleur, ça fait l'effet d'une toile, fait que je peux perdre mon eau. Ça fait, fait que j'enlève ça à la fin de la journée, l'eau est toute brouille, y a des algues qui se sont créées, puis c'est ça, ça pète à tout bout de champ parce que les enfants s'amusent à sauter là-dessus. Fait que retenez ça, acheter cheap, ça coûte cher, des fois mettre un petit peu plus d'investissement dès le départ. On parle des fameux bracelets et autres gogosses à la citronnelle anti-moustique. Il y a plein de recettes maison sur Internet. De un, ça vous fait une belle activité à faire avec les enfants. Puis de deux, ça aussi, souvent, c'est des affaires très jetables après l'activité. Vous allez acheter ça pour peut-être une fin de semaine de camping dans l'été. Ça ne se réutilise pas après. Puis,
versus un thermacelle, mettons.
Ben,
ça, puis, ça marche.
Il n'y a rien, c'est ça, dans ces trucs-là, les autocollants puis les bracelets, qui prouvent scientifiquement que ça marche tant que ça. Ça ne peut pas nuire, je ne dis pas le contraire. Mais le fameux thermacelle à l'intérieur d'une tente, ça, pour l'avoir vécu, moi, à quelques reprises en camping, c'est vrai que c'est efficace, ça... mais encore là, c'est pas top pour l'environnement non plus.
Mais tu vois, ça se traîne très mal en camping, mais cet été, on teste le géranium citron. S'il arrête de pleuvoir un jour, on va pouvoir souper dehors, fait que je pourrais vous dire si ça fonctionne ou pas.
OK, on va attendre ton suivi là-dessus.
Puis il y a les fameux bacs à la mort qui sont très populaires sur TikTok. C'est une trend en ce moment, ça, si vous avez vu ça passer. Des grosses chaudières en plastique là, qu'on peut acheter là, comme chez Canac, par exemple, mais avec le couvercle, vous mettez de l'eau à l'intérieur de ça avec un mélange de vieux gazon. Puis c'est une sorte de larve que vous pouvez acheter dans des centres Gérard Bobo de ce monde. Vous mettez ça là-dedans, puis les moustiques sont attirés par le plan d'eau et la larve, elle, va s'occuper
de manger
le moustique, de décomposer le moustique. C'est 100% naturel. Il n'y a rien contre l'environnement.
Pas contre nous
puis
après.
Les larves ne serviront pas contre nous non plus. Pas pour l'instant, en tout cas, mais le film n'est pas sorti. Fait qu'on verra éventuellement, peut-être un jour. Les extras pendant les activités déjà coûteuses, tu sais, quand on arrive à par exemple, tu sais, mes enfants sont allés hier à la plage Champlain avec mes beaux-parents. C'est sûr que quand tu arrives là, ben oui, il y a le kiosque à crème glacée, puis ben oui, il y a le stand à sandwich, puis ça se peut que tu sois pressé un matin puis tu n'as pas le temps de te faire de lunch, mais souvent ça, c'est des dépenses qu'on ne calcule pas. Je dis pas que c'est mal, là, c'est pas ça. De se gâter pendant les vacances, c'est correct.
Ça augmente le prix des activités à chaque fois.
Mais c'est ça, c'est que souvent, c'est une dépense qui n'est pas calculée dans le budget vacances, parce que dans le budget vacances, on calcule le déplacement, l'hébergement et le coût d'entrée à l'activité.
Ça, c'est mon chum, là.
Qui fait ça?
Mais à chaque fois, tu sais, mettons, on part dans le sud. On a trouvé un forfait, on a trouvé des rabais. Là, il s'en va au comptoir, on arrive, là, puis il dit « Ouais, finalement, je nous ai upgradé. » À chaque fois. Puis, mettons que mon fils veut quelque chose, là, finalement, il y avait l'extra forfait ça, l'extra forfait ci, il va toujours dire « Oui, c'est terrible. »
Fait que toi, c'est comme dans un budget d'infrastructure. Faut que tu aies une espèce de coussin pour quand tu planifies ton
voyage.
Faudrait
pas que je dise ce que mon chum fait dans la vie, parce que je pense que tu rirais beaucoup. Ça a un lien avec les infrastructures, juste pour vous faire. Mais ouais, moi, mon chum est comme ça. Parce que, by the way, ce que tu nous présentes là, à l'intérieur d'un couple, on a toujours une personne qui est plus économe puis une personne qui est plus dépensière. Là. Ces personnes-là se marient tout le temps ensemble. Là. C'est comme...
C'est ça. On a ce problème-là, nous autres.
Pas de deux dépensiers.
On est deux modèles pareils. Oui, vraiment.
Mais il n'y en a pas un qui devient plus économe juste par contact là, avec l'autre qui dit « ben là, ça n'a pas de bon sens. »
Ta blonde est comme toi.
Ouais. Mais ça s'appelle de l'anxiété, ça. C'est ça qui arrive.
Ça vous bloque à un moment donné?
C'est qu'à un moment donné, on devient vraiment anxieux puis on est comme « wow, ça n'a pas de bon sens. » Puis pour être bien transparent avec vous, moi, je suis dans une période comme ça, là.
C'est qu'il faut qu'on arrête de dépenser.
C'est notre renouvellement hypothécaire, là. Puis c'est comme, tu sais, le moment d'emprunter d'autres sous pour refaire la toiture puis des cossins à sa maison. Puis bref, tu sais, j'entrerai pas trop dans les détails de ma vie privée non plus, mais c'est ça, quand t'es deux dépensiers ou deux personnes qui, on n'a pas de budget puis on ne le suit pas tant que ça. T'sais, on paye nos affaires, tout est payé, on arrive à la fin du mois, tout est bien correct aussi. Mais des fois, c'est ça quand on jase avec des amis qui nous disent hey, « là, optimiser les REE, là. » Puis là, moi, quand ils me parlent de ça, je suis comme
« ouais, là, l'anxiété embarque. Là.
Dans le, moi, je mets de l'argent dans les REE, un montant fixe par paye, il me semble que tout est beau. Je fais-tu la bonne affaire? Non, non, c'est la meilleure façon de faire de l'épargne en ce moment. C'est là-dedans que le gouvernement donne le plus. Puis, puis j'ai tout le temps l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais j'ai le même principe quand je suis en vacances. J'ai tout le temps l'impression de passer à côté de quelque chose. Fait que le petit cossin de plus, comme ton chum, le petit upgrade...
Tu veux le vivre à fond.
Je veux le vivre à fond.
Je comprends.
Puis je pense que c'est pire depuis le après-maladie.
Ah oui,
aussi.
T'as le YOLO plus fort, là.
J'ai le... Tu sais, je le dis souvent... c'est souvent ma phrase, là, typique, là. Moi, j'ai juste une deuxième vie à vivre.
Fait que... c'est beau.
C'est comme mon espèce de mantra maintenant, mais ça fait en sorte que
c'est
des fois...
C'est aussi ta justification.
C'est ça. C'est ça. Ce mantra-là, d'après moi, visole l'aime en tabarouette, mon Dieu. sinon, on parle des... c'est ça, de toutes les upgrades. Puis, tu sais, une des phrases qui m'a marqué le plus là-dedans, c'est toutes les petites choses qui peuvent contribuer à rendre une journée encore plus agréable. Mais est-ce que ça risque de faire vraiment la différence dans le souvenir de vos enfants? Et voici la phrase suivante. Papa, tu te rappelles quand on a entendu 12 minutes... Non, papa, tu te rappelles quand on a fait le voyage entre les deux hôtels avec la voiture décapotable? C'était génial. C'est rare que les enfants vont nous revenir avec ça. Parce que nous, on a décidé de se gâter la décapotable au lieu de prendre le petit char économique. Puis finalement, ben, l'enfant, ce qu'il se souvient, c'est la fenêtre était électrique en arrière. C'est le petit détail, micro-détail, qui la fenêtre aurait été électrique dans le petit char de location, pareil aussi.
C'est tellement vrai.
Les camps de jour spécialisés, même affaire. On ne dit pas que c'est pas bon, mais c'est juste que ça joue énormément sur un budget aussi. Oui. Les villes offrent des camps de jour. Ça a été difficile dans les dernières années. Ça s'est beaucoup amélioré sur les plateformes maintenant avec Amelia pour inscrire les enfants. Mais c'est sûr que les camps spécialisés, c'est correct de vouloir développer ses enfants le plus possible. Mais dans un budget, il faut le planifier aussi parce que ça coûte beaucoup plus cher. Puis des fois, ben c'est ça, vous allez arriver à la fin de l'été, puis le camp de piano au conservatoire avec le pianiste de l'OSQ a coûté 1 200$. Puis ce que la petite Charlie va vous parler, c'est quand elle a joué toute seule avec sa nouvelle voisine, puis elle a fait des potions
quand
contre les voleurs.
Exact, quand elle a trouvé un trèfle à quatre feuilles chez mamie.
Ouais. Souvent, on se met beaucoup de pression, c'est ça. Les souvenirs de voyage, ça, c'est un point qui revient aussi. Un selfie sur la plage, vous allez le regarder, puis vous en rappeler, puis en rire encore dans 4, 5, 6 ans. Mais le cossin made in China que vous achetez dans une petite boutique souvenir, est-ce qu'il vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer par là? Il y a beaucoup d'attrape-touristes dans ces affaires-là aussi. Tu sais, souvent, les portes de sortie maintenant sont au milieu de la boutique souvenir,
oui,
fait que t'as pas le choix.
C'est fait pour que les enfants le voient.
Pas juste les enfants. Oui. Ben, j'ai acheté un chandail beaucoup trop cher de Star Wars la dernière fois que je suis allée à Disneyland.
Ben, c'est ça. Puis en même temps, tu te dis, ben, tant qu'à être là, tu sais, j'aimerais ça revenir avec quelque chose pour un souvenir, mais ça, c'est juste d'essayer de se raisonner. Ou encore là, dans le couple, des fois, d'en avoir un ou une des deux qui va se rappeler puis qui va se dire, te souviens-tu, on s'était dit que ça servait à rien que t'achètes. Tu sais, moi, je voulais m'acheter une paire de Ray-Ban quand j'étais en Italie. Puis c'est ma blonde, à un moment donné, qui m'a dit, tu sais...
C'est parce qu'en Italie, en plus, tout coûte cher.
Bien, tout coûte cher, puis tu sais, c'est pas parce que t'es acheté. Ça va faire quoi que tu dises que t'es acheté en Italie?
Ben oui.
Fait que j'ai dit à ma blonde, t'as bien raison, je vais m'acheter des parcelles à la place.
Et voilà!
Qui était deux fois plus cher. Quelle excellente décision, Nathan.
Et
finalement, je me suis raisonné, je ne les ai pas achetés. Donc, c'est différents exemples comme ça qui, comme parents, si vous vous mettez beaucoup de pression... des fois, juste avoir un petit reminder, tu sais, le petit X qu'on se dessine sur la main des fois là, pour se rappeler, de ne pas oublier. Là. Peut-être vous en faire un au début des vacances puis de vous dire, hey, on s'était dit qu'on avait un budget. Parce que la morale de tout ça, puis je ne veux pas être moralisateur, c'est que l'anxiété prend la place à la fin des vacances. Là, quand vous regardez votre compte Visa, votre compte Mastercard, votre compte chèque, là, les vacances...
Qui arrivent pour la rentrée, en plus.
Qui arrivent pour la rentrée. Puis là, vous regardez ça, puis vous faites « Ah, oh, que c'était inutile que je fasse ça, que j'achète ça, que j'achète ça. » Fait que finalement, vous regrettez ces fameux souvenirs-là que vous vous êtes mis donc ben de pression pour créer, que ce soit pour vous comme adulte ou pour les enfants. Fait que juste un petit reminder des fois que...
Fait que comme conclusion, le meilleur investissement, si vous avez un enfant, c'est un seau. Il va s'en servir à la plage ou encore pour faire des potions.
En plein ça.
Exactement.
C'est
la
ce
base.
Qu'on retient. Hein? Vous voyez? Fait que des solutions comme ça, on en a plein pour vous. Et ça, pendant les 4 prochaines heures. Et l'avantage de Boulevard 102.1, c'est que ce soit avec la bonne vieille bande FM, on va finir par le dire, que ce soit par l'application ou encore sur la web radio, ça vous coûte pas une scène. C'est complètement gratuit. Donc, Véronique Bergeron, Antonine Iaccarini, Nathan Meyer avec vous pour les 4 prochaines heures. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1. Restez là, on revient dans quelques instants. Le retour. 14h26 minutes. Vous êtes à l'écoute de Boulevard 102.1, votre radio parlée à Québec. J'aime ça dire ça, cette phrase-là.
Ça te va bien.
Votre radio parlée à Québec. C'est à vous, ça. Parce qu'on fait de la radio pour vous, mais avec vous aussi. Donc, c'est votre émission, vous le savez. Vous nous appelez 781-1021. Vous voulez nous texter 971-1021. Des beaux textos, d'ailleurs, déjà depuis le début de l'émission concernant le sujet vacances puis le fait que on regarde pas dépenses, comme on dit. Puis des gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'eux aussi ont vécu des épreuves de santé, puis ça n'a pas toujours été facile, puis des fois, ta perspective change. J'ai des gens autour de moi, qui ont vécu ce genre de situation-là aussi, puis qui ont décidé, non, on sort les REER, tant pis, puis on part pendant 6 mois, 1 an avec les enfants. On s'en va ailleurs, on va faire le tour du monde. Tu sais, ces fameuses histoires-là de on vend la maison, on achète un autobus, puis on part pendant 1 an, on va faire toute la côte ouest américaine, puis ben pourquoi pas? Pourquoi pas vivre maintenant aussi? C'est important de faire des économies, on ne dit pas le contraire, mais en même temps, des fois, si c'est ça qui est important pour vous à vos yeux, c'est de suivre vos valeurs, c'est ça le plus important. On fait un tour de l'actualité parce que ça a brassé beaucoup quand même aujourd'hui.
Oui, puis je pense qu'on va peut-être faire un tour de circulation aussi. Je ne veux pas nécessairement prendre ta place, Nathan. Là.
Ben non.
Mais il y a énormément de ralentissements sur le réseau routier. Le fait qu'on soit vendredi et que certains tombent en congé plus tôt, mais aussi la quantité de pluie qui a tombé jusqu'à maintenant semble ralentir absolument partout parce que nous, ici, on a une vue sur Laurentienne en direction sud. La bretelle pour mener vers Capitale, c'est lent, ça pas de rapport. On a des problèmes aussi pour accéder au pont où c'est aussi lent que s'il était, mettons, je sais pas moi, 16-17 heures dans l'après-midi. Puis sur la 20, autant direction est que ouest, dans la portion vraiment à l'est des ponts, là, c'est problématique jusqu'à Lévis-Centreville.
C'est vraiment, c'est ça, c'est au ralenti. Puis même dans le secteur de la Basse-Ville, aussi dans le secteur de Saint-Roch, là, tu sais, on en parlait.
Oui, des travaux, entre autres.
Il y a des travaux beaucoup dans ce coin-là. Il y a dans le secteur de Dalhousie aussi plusieurs accès qui vont être bloqués en fin de semaine à cause de l'événement de triathlon. Oui. Le Sail Cap Challenge aussi. Donc, c'est difficile dans ce secteur-là déjà. Si jamais vous voyez quoi que ce soit, mais même chose, 971-1021 aussi.
Tu parlais de la Basse-Ville. Pour la première fois hier, j'ai eu à passer dans le secteur où il y avait la passerelle Adrien Pouliot qui a été démolie le week-end passé. C'est donc bien beau. Tu trouves? Ah, oh, je trouve ça magnifique.
Ça, je l'ai vu moi aussi, puis je me suis vraiment fait un raisonnement de mon oncle. Ça a grandi.
Ben, c'est ça. C'est plus vaste,
ben,
en fait.
Tu sais, quelqu'un qui peinture en pâle sa cuisine qui est enfoncée, puis là, la première fois que tu rentres, tu fais « Oh mon Dieu, ça a grandi, ça a éclairci. » C'est plate parce que cette passerelle-là était importante, parce qu'elle était sécuritaire.
Oui, dans un secteur qui l'est peu.
Attends, elle était plus sécuritaire pour passer dessus, mais elle était sécuritaire pour les piétons puis les cyclistes.
Elle était plus pour passer dessus non plus?
Ça commençait à être dangereux. Okay, là.
C'est
ça, ça fait partie de la prise de décision finale. Mais
serait la quantité d'urine qui rentrait dans le béton.
Ah, wesh.
J'aurais peut-être atteint la structure à un
tu
moment donné.
Tu l'as dit, je le sens.
Mais l'été,
comme les escaliers du carré du ville.
Ben, exactement. Puis l'été, c'est ça, en période de canicule, quand tu passes par là.
Miam, miam, miam.
C'était vraiment pas idéal. Mais c'est ça, t'sais, effectivement, ça change complètement l'espèce d'entrée qu'on a dans la ville maintenant, qui est beaucoup plus vaste. Le truc, les filles, qui m'a comme bogué, moi, c'est l'affichage.
Parce qu'il y avait toujours une banderole, là.
Oui, moi, j'aimais ça quand il y avait la grosse banderole du carnaval, puis après ça, il y avait celle des fêtes de la Nouvelle-France, puis celle du Festival d'été de Québec. À chaque année, tu sais, c'était comme l'espèce de porte d'entrée de la ville. Fait que là, tu sais, on ne pourra plus en installer, mais en même temps, c'était pour la sécurité des gens. Mais oui, ça change le visage complètement. Et là, ben, dans l'actualité... Ouais. Il y a un paquet d'affaires à suivre aujourd'hui, même si c'est vendredi. Clairement, les nouvelles n'ont pas pris de congé.
Non, il y a Al Boivin qui aurait été arrêté du côté de l'Espagne. Et la raison pour laquelle je le dis au conditionnel, c'est que la SQ est en train de valider des informations. C'est un nom que vous avez déjà entendu. C'était devenu le criminel le plus recherché au Canada. Au Canada, on a le programme BOLO, Beyond the Lookout, qui est les criminels les plus recherchés. Puis ils ont des récompenses qui vont avec. Il y avait jusqu'à 100 000 $ qui pouvaient être donnés pour des informations qui permettaient l'arrestation de Al Boivin, qui est un individu originaire du Saguenay, qui est impliqué dans la guerre des stupéfiants depuis quelques années déjà. Lui, il est âgé de 37 ans, il fait face à des accusations de gangstérisme, de voies de fait graves, d'enlèvement, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, en plus d'une série d'introductions par effraction violente. Et lui était avec le Blood Family Mafia, donc la gang de Dave Picturmel, qui lui a été arrêté, qui est toujours en Italie, qui n'a toujours pas été extradé. Puis à un moment donné, quand Picturmel a été arrêté, son pouvoir s'est un peu étiré de ce qu'on peut comprendre. Et Al Boivin a trouvé que c'était vraisemblablement un bon moment pour partir sa propre faction, la North Savage Gang. Puis on parle de Québec et du Saguenay, mais il sévissait beaucoup plus large que ça. C'est vraiment l'est du Québec où ces gangs-là tentaient d'avoir le contrôle de la drogue, avaient pris ça un peu au profit des Hells Angels avec qui ils travaillaient auparavant. Donc, il était recherché depuis un peu plus d'un an. Sa conjointe aussi, elle, on ne sait pas si elle a été arrêtée au même moment. Puis là, vous comprendrez que ce sera le début des procédures, puis ça peut être excessivement long. Là, des pics turmelles, on pense que ça pourrait pas aller avant 2027.
Puis ça aussi, tu sais, t'as parlé du montant qui était à sa tête, là, tu sais, pour... c'était 100 000 $ tu disais?
Jusqu'à 100 000 $
Jusqu'à 100 000 $ parce que ça, c'est sorti dans les médias aussi dernièrement. La personne qui, justement, aurait donné les informations concernant Dave Picturmel...
a dû se battre pour avoir ses sous.
C'est ça, en plein ça. Fait que, tu sais, on fait des promesses de récompense, mais après ça, on est obligé, parce que cette personne-là a dû quitter le pays...
C'est super dangereux.
À certains moments, son nom était connu des membres de la Blood Family Mafia. C'était pas rigolo, là, quand même. Là.
Puis il a fallu se battre. Est-ce que c'est parce qu'on se garde un pouvoir discrétionnaire selon la pertinence des informations? C'est même pas
ça. On n'a pas ces informations-là parce que lui, il a vraiment dû y avoir des tractations, entre autres avec le programme Bolo, entre autres du côté, je pense que c'est du service de police de la Ville de Québec, les avocats qui ont dû négocier de part et d'autre, puis il y a finalement eu une entente. C'est Radio-Canada. Yannick Bergeron, je pense qu'il y avait ces informations-là. Puis Nous, ça nous a sidérés parce que c'est pas Antonine Yaccarini, Véronique Bergeron, Nathan Meilleur qui vont avoir des infos pour arrêter un Dave Picturmel ou un Al Boivin.
C'est des insiders.
C'est des insiders qui vont souvent frayer dans ces groupes-là qui sont connus, qui sont suffisamment prêts pour avoir accès à ces informations-là. Là. C'est pas quelqu'un qui est en train de manger un pinchot en Espagne qui a vu Al Boivin. Là.
C'est quelqu'un de l'interne. Quand les informations sont transmises, c'est sûr qu'il y a une chasse aux sorcières après.
Oui.
Là.
Ben oui.
Puis on a vu ce qui se passait quand on voulait punir des gens ou soutirer des informations. Ça coupe des oreilles, ça brûle des testicules. Tu sais, c'est comme...
Oui, c'est hardcore, pas agréable.
Ben, c'est ce qu'on a entendu beaucoup le collègue Yannick Marceau dire dans les derniers mois aussi avec cette espèce de guerre-là. On dira ce qu'on voudra, mais les moteurs, il y avait quand même un code d'honneur qui était suivi et respecté, tandis qu'avec le Blood Family Mafia, on avait l'impression que c'était un peu plus le free-for-all. Tu sais, tu faisais un peu comme tu voulais pour passer tes messages.
Ah, tu peux même changer ton temps de verbe, c'est encore ça.
Tu vois, c'est beaucoup plus rough, je trouve, comme façon de faire. Puis souvent, mais c'est sûr que les informateurs comme ça, ça vient avec d'autres promesses avant aussi. Si on a rencontré les services de police, bien, on promet qu'on va te protéger, on promet qu'on va protéger peut-être les membres de ta famille, qu'on va t'avoir une nouvelle identité, un nouveau passeport, un ci, un ça. Sauf que là, c'est sûr que ça donne pas envie à des gens de donner des informations s'ils en ont quand on apprend que le gars...
On se tire dans le pied, là.
Ben oui, c'est ça.
Si on commence à traiter le monde qui donne des informations comme ça, ben ils n'en auront plus d'informations.
Puis ça va être à suivre aussi parce que tu parlais de l'extradition de Picturmel. Comme tu disais tantôt, à savoir si Al Boivin, ça va être plus rapide. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire venir plus rapidement aussi? Parce qu'évidemment, on s'attend à ce que les instances là-bas sur place, eux, s'assurent de régler leur compte avec
si
les criminels, si jamais c'est le cas, avant évidemment de l'extrader ici vers le Canada. Est-ce qu'il y a autre chose qui retenait ton attention?
Dans l'actualité, du côté du Palais de justice de Québec, puis... C'est un père de famille. C'est pas vrai. T'es pas un père de famille quand t'agis de même, là. Qui avait été reconnu coupable suite à un procès pour des histoires de violence envers son nouveau-né. Donc, coupable de voies de fait graves, de voies de fait causant des lésions. Ça remonte à septembre 2025, ce procès-là, au terme de 8 jours. Il y aura finalement 4 ans de pénitencier pour cet individu-là de 38 ans qui est un ancien militaire. Puis, semble-t-il que lui, ce matin, là, il était tout à fait indifférent à tout ça, si on
peut
dire.
Pas de gros remords?
Non. Selon ce qu'on a pu comprendre au moment du procès, il y a eu 3 événements qui ont causé des blessures qui sont survenues en quelques semaines. Ça n'a juste pas de bon sens. 11 fractures et des lésions au cerveau sur un bébé nouveau-né, là.
Sans défense.
Carrément, sans défense. Lui, semble-t-il, qui disait à la mère qu'un bébé s'était fait fort... Vous voyez le genre d'individu. Puis on avait essayé de défendre tout ça en disant ben, c'est des scénarios accidentels, il aurait pu tomber en bas d'un divan. Puis là, il y a des experts qui avaient été appelés par la poursuite qui disaient qu'il y avait des lacérations cérébrales qui étaient attribuables au syndrome du bébé secoué. Un total de 11 fractures aux côtes pouvant être liées à plus d'un événement violent en raison de leur niveau de guérison variable. C'est absolument dégueulasse comme histoire. Donc, tout ça s'est passé pendant les 10 premières semaines de vie du nourrisson. La peine, entre autres, qui a été donnée, là, c'était une des suggestions qui avait été faite du côté de la couronne. Là, on avait porté le verdict de culpabilité en appel. Fait que reste à voir si ce sera entendu. Puis le juge qui a indiqué qu'il avait considéré aussi l'impact du crime sur la maman de la victime parce que ça a provoqué l'éclatement du couple, de la famille. Fait qu'elle s'est retrouvée avec des responsabilités qui bouleversent sa vie. Ça me fascine à quel point des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup
ça
du côté du palais de justice.
Malheureusement, très souvent. On s'entend-tu que si vous avez envie de frapper un bébé...
Allez prendre une marche.
Ben, en fait, allez en thérapie. Là, vous avez besoin d'aide. Là.
C'est ça, marcher jusqu'à la thérapie.
Oui, carrément.
Tu sais, c'est... Je me prononcerai même pas là-dessus. Ça me met hors de moi, ça, ces affaires-là. Ça me met tellement en bourgeois le vert. C'est ça. Non, je ne me prononcerai pas parce que je vais dire des niaiseries.
Bon, prochaine nouvelle.
Prochaine nouvelle, allons-y. Oui.
Côté politique, il y aura d'autres annonces de candidature de la CAQ. Ça va se faire au courant de la prochaine demi-heure. Plusieurs. Puis là, tu vois, on a encore reçu des annonces pour la fin de semaine à venir, là, du côté de Richemont, du côté de Sherbrooke aussi, même s'il y a des noms qui ont déjà continué à circuler. Je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ça va être comme ça jusqu'à ce qu'on ait nommé tous les candidats pour être sûr de prendre tout l'espace public. Puis ça répond aux critiques qu'il y avait eu en disant « Hey, ils ont perdu plein de députés, il y a des ministres qui ne se représentent pas, ils n'ont pas encore annoncé une candidature. » Clairement, ça bat de l'aile. On répond un peu à ça avec les candidats qu'on présente.
Bien, parce que le fait qu'il ait attendu aussi longtemps du côté de la CAQ pour présenter des candidatures, puis on disait « On va laisser un peu la session parlementaire se terminer, puis on va faire nos annonces cet été », bien, ça montait les attentes aussi, parce que les autres partis politiques étaient tellement en avance sur la CAQ. Mais là, je dois dire qu'avec le rythme qu'ils ont mis, c'est pas inintéressant. Et surtout, s'ils réussissent à avoir des élus actuels qui annoncent qu'ils restent. On en a vu quelques-uns. Là, je pense à Samuel Poulain, notamment Mathieu Lévesque en Outaouais.
Hier, c'était Jean-François Roberge.
Jean-François Roberge a annoncé également. Et on s'attend à ce qu'il y ait d'autres noms qui sont déjà présents et qui disent qu'ils vont rester. Donc, l'espèce de trame narrative de tout le monde s'enfuit du navire qui coule, là, je pense qu'on va peut-être réussir du côté de la CAQ là, à stopper cette idée-là. Là, si on continue à bon rythme comme ça.
Puis en plus, les annonces se font de plus en plus près du déclenchement de la véritable course. T'sais, on va être en pré-campagne tout l'été. Là. Ils vont aller se promener dans leur circonscription ou celles qu'ils convoitent. Ils vont aller flipper des burgers, garnir des hot dogs, prendre des photos
prendre
avec
des bébés.
Des
mais c'est une bonne...
Pas les secouer,
c'est une bonne... Oui, c'est ça, idéalement non. Mais c'est une bonne stratégie, je trouve, quand même, parce que tu sais, c'est le début de la période des vacances. Puis tu sais, il y a comme deux débuts de période de vacances. Je pense au Québec maintenant, il y a la fin des classes vers la Saint-Jean. Puis après ça, bien, il y a les semaines de la construction. Mais pendant ce temps-là, souvent au niveau médiatique, il y a encore une présence. T'sais, nous, on est là dans les journaux aussi, on est là. J'ai l'impression que c'est plus à partir des deux semaines de la construction où c'est un petit peu plus au ralenti. Puis là, ben, pendant une semaine, il y en a une qui est là. Puis après ça, les vacances s'alternent comme ça. Fait que s'ils peuvent avoir cette présence-là jusqu'à la mi-juillet, honnêtement, deux pouces en l'air pour la stratégie, là, parce que ça fait qu'on parle d'eux à peu près à tous les jours, finalement.
En terminant, toujours en politique, mais au fédéral, ça fait quand même quelques années qu'on parle de « il faudra rénover le 24 Sussex ». Le 24 Sussex, c'est la résidence officielle du premier ministre canadien. Justin Trudeau s'était servi, entre autres, des jardins, mais on n'avait plus accès à la maison depuis quand même un certain temps déjà, parce qu'on l'avait fermé en 2022 pour des raisons de santé et sécurité. Il y avait une infestation de rats.
Oui.
C'est gênant.
Dans quel univers?
Ben oui, c'est gênant.
Tu laisses aller suffisamment une résidence, une maison, un appartement pour que ce soit infesté de rats. Oui, je sais, on est au Québec, on a des hôpitaux qui sont faits comme ça. Là. On n'a peut-être pas de leçon à
donner. Oui, on va sûrement recevoir quelques textos à ce propos, parce que d'habitude, les gens ne pleurent pas sur le sort des résidences de premier ministre.
Non, non, non.
Mais c'est parce que ça appartient pas au premier ministre. C'est notre résidence
mais on peut pas
de notre chef d'État. Non, mais en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est que politiquement, quand tu veux rénover, ça ne passe jamais très bien non plus.
Oui, puis là, c'est peut-être pour ça qu'on a laissé aller. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a lancé un concours où des entrepreneurs canadiens pourront participer, pourront appliquer, si on veut. Puis, on choisit comme président du jury le monsieur qui a fait Habitat 67.
Oui. Oh,
tu sais, les espèces de blocs empilés un peu.
Ouais, ça les gros fasciné, escaliers, ça. Là.
Ouais, ouais, exact. Ouais, ouais. Puis c'est vrai que c'est une architecture qui est très distincte. Vous comprendrez que la rénovation du 24 Sussex, ça va être beaucoup plus traditionnel.
Avec moins de béton,
que ça.
S'il vous plaît.
Oui, exact. Fait qu'on prévoit que la proposition retenue sera annoncée d'ici au 1er juillet 2027.
OK.
Fait qu'on ne rénovera pas ça à court terme.
Puis est-ce que le slogan, c'est « Rénovons tous pour le Canada ». C'est
Bâtir Sussex Canada, j'imagine.
C'est ouais, ben, ça? C'est ça, j'allais dire, ouais. Ça va peut-être rentrer dans le programme Bâtir Maison Canada.
Bâtir, oui, c'est donc, vrai, ça existe, ça.
Sur le 24 Sussex, c'est un manoir de 35 pièces construit en 1896 qui a servi de résidence officielle des premiers ministres de 1951 à 2015.
Oui, parce que Justin Trudeau ne voulait pas habiter dedans.
Parce qu'il y avait des rats?
Bien, ça n'a pas de bon sens, c'est pas habitable.
Puis il a pourtant grandi là-dedans, lui... Pendant un certain temps. Ben, non, pas dans les rats, mais dans le Sussex aussi. Mais ça, c'est quelque chose avec lequel peut-être que les auditeurs, auditrices ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, ça, je pense qu'on est d'accord, Antonine Verrou, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ce genre de choses-là, faut... Il y a un minimum de décorum, il y a un minimum de prestance. Tu sais, les gens qui chialent par rapport au fait que nos représentants à l'international vont se promener en première classe en avion, puis vont avoir des limousines, puis des chauffeurs, puis des gardes du corps rendus là-bas. Wow, minute, de quoi tu veux qu'on aille l'air à l'étranger? C'est de quoi fou. Tu veux qu'on aille l'air même chez nous dans ce cas-ci?
Si on n'entretient pas les affaires, on attend que ça s'effondre.
Exactement. T'sais, tu vas honnêtement, c'est le même syndrome tout le temps. C'est le syndrome, on repousse à plus tard, on cheap, puis après ça, ben, ça tombe en morceaux, puis on s'étonne.
Tu vas en Europe, là, le souci du détail sur les clôtures, les immeubles qui sont repeints, nettoyés de manière régulière, qu'on rajuste les infrastructures, il n'y a pas rien, il n'y a pas un poil qui dépasse. Puis ça, c'est pas juste, en tout cas dans les grandes villes, là, pas juste dans les bâtiments qui appartiennent au peuple, mais même les commerçants, tout ça, il y a quelque chose qui fait que, hey, on va entretenir tout le temps plutôt qu'attendre que tout chie et que ça nous coûte une fortune. Maudit qu'on n'a pas ça, nous autres. Ça me fait capoter.
Il devrait raser ça, le jeter à terre, le reconstruire, puis là, ça serait le 25 Sussex. On passe au suivant. À un moment donné, on verra bien.
En préfab,
regarde, pourquoi pas.
Pas besoin d'autant de pièces, de toute manière.
C'est tellement moins compliqué. C'est le retour à Boulevard 102.1. C'est votre trio qui va vous accompagner pendant une bonne partie de l'été. Je vous le rappelle, Véronique Bergeron, Antonine Iacarini, moi-même, Nathan Meilleur. On fait une courte pause et de l'autre côté, on va discuter avec Andy Cerqueira, qui est un ami à moi, qui est un humoriste de la relève excessivement talentueux, mais aujourd'hui, il est là pour nous parler de la Coupe du Monde, de la FIFA, parce que c'est aussi un très, très grand fan, grand amateur de soccer. Donc, on parle de ce qui s'en vient pour le Canada dans les prochaines minutes. On vous l'avait promis au début de l'émission, le retour à Boulevard 102.1. On vous avait promis qu'on avait une émission qui était bien équilibrée. Pour vous aujourd'hui, évidemment, on parle d'actualité, on est une radio parlée après tout. Puis il y a des grosses nouvelles aujourd'hui. Il y a des nouvelles qui sont vraiment moins le fun à lire, à entendre et même à vous livrer en ondes. Ce pourquoi c'est important pour nous, d'arriver avec quelque chose d'un peu équilibré, vous amener un peu ailleurs. Et dans ce qui retient l'attention, évidemment, dans les derniers jours et qui va continuer à retenir l'attention dans les prochaines semaines, c'est la Coupe du monde de soccer en ce moment. Il y a une effervescence, clairement, qui se fait sentir. Je ne sais pas, vous, les filles, autour de vous, si vous en entendez parler. Moi, j'avais hâte de voir à quel point ça allait fonctionner. Moi, je suis obligé d'admettre que oui, j'en entends beaucoup parler. Je suis allé au Grand Marché mercredi parce que c'était un des seuls endroits de la ville qui était ouvert. Il y a un espace FIFA au Grand Marché. Il y avait des chars aux pieds carrés. Des chars lettrés. Il y a des gens qui se sont achetés des drapeaux en plastique Brésil, puis ils ont mis ça, ils ont collé ça sur le hood de leur char. Il y a des drapeaux de tous les pays. C'est tellement beau à voir aller. Nous, on connaît ça un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, j'ai un ami à moi, Andy Cerqueira, qui est en studio avec nous, qui, lui, connaît ça pas mal. Puis, on va en jaser un peu avec lui dans les prochaines minutes. Salut, Andy.
Yes, salut. Ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, merci de l'invitation.
Quand tu parles de soccer, quand tu parles de foot, tu as des étoiles dans les yeux. Nous, on a eu la chance d'en parler ensemble avant même que la Coupe du Monde débute. Je veux présenter Andy parce que c'est un humoriste. On dit humoriste de la relève, mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'il fait de la scène. Un gars qui est excessivement talentueux, très, très drôle. Si vous avez la chance de le voir dans une soirée à Québec, sautez là-dessus. On était dans une soirée ensemble à la Ninkasi. Puis je me souviens qu'à la fin du show, tu m'as dit « Faut que je m'en aille. Il y a un match de soccer qui est à une heure qui n'est pas complètement ridicule. Je veux m'en aller pour écouter ce match-là. » Puis là, ça m'a rappelé l'espèce d'effervescence qu'on avait déjà vécu dans des Coupes du monde dans le passé, parce que j'ai travaillé en restauration pour des Français, pour des Italiens. Puis quand c'était la Coupe du monde, eux, ils devenaient complètement fous. Mais là, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a un phénomène, étant donné que c'est quand même ici, aux Amériques, que ça se déroule.
Il y a ça. Il y a le fait aussi là, que, justement, avant, c'était comme des petites cellules de fêtes qu'on se faisait. Tu sais, les Italiens vont être d'un côté, dans un bar.
Ça y allait par les nations.
Ça y allait par les nations.
Il y avait moins de matchs aussi. Il y avait moins de nations qui participaient. Ils étaient plus visibles, ceux qui étaient bons.
Il y avait ça aussi. Puis là, cette effervescence-là, elle est partout. À Québec, là, on se promène, tous les bars, tous les pubs montrent les matchs. Il y a 4 ans, ça faisait longtemps que le Canada s'était pas qualifié. Et malgré ça, c'était pas tous les endroits qui présentaient les matchs. Maintenant, tout le monde présente les matchs.
Le fait qu'il va avoir son espace pour regarder les matchs dans le parc de la francophonie, on sait ça en début de
semaine
de la semaine passée.
Ouais. C'est la folie, puis c'est une bonne façon de relier les deux, parce que tout à coup, ça se peut que le FEC puis la Coupe du Monde se fasse compétition, pourquoi pas amener la Coupe du Monde au FEC, tu sais. Puis ça fait en sorte là, que cette effervescence-là, elle montre que c'est bienvenu d'afficher nos couleurs partout. Et là, que je parlais de petites cellules où on fêtait, mais là, maintenant, c'est partout à Québec. Je vais me promener, mettons, avec mon chandail du Portugal ou mon chandail du Canada, et tout le monde va savoir pourquoi j'ai ce chandail-là.
Ah, t'es bi-équipe, toi?
Bi-équipe. Curieux du soccer.
T'es curieux du soccer. J'aime vraiment ça.
Non, mais tu sais, j'ai un ami qui est français qui est allé voir un match du côté de New York, un match des Bleus. Puis je sais qu'il est bi-équipe aussi. Là. Ça fait tellement longtemps qu'il est au Canada. Puis tu sais, il n'avait jamais eu l'opportunité de prendre pour le Canada au soccer. Fait que là, pour lui, c'est comme wow, c'est donc bien le fun.
Ben, est-ce que c'est quelque chose qui est courant chez les autres nationalités ou c'est parce que le Canada, on est tellement néophyte encore dans la Coupe du Monde que là, les gens se permettent d'être encore pour leur ancienne équipe, mais un peu pour le Canada, ou quelqu'un qui est né au Mexique, mais qui déménage au Portugal va être bi-équipe aussi? C'est-tu quelque chose qui est standard, ça? Ou...
Bien, par exemple, je vais prendre un exemple vraiment précis. La Tunisie a eu un très mauvais parcours en Coupe du Monde. Ils ont même congédié leur entraîneur après le premier match.
C'est vrai, hein?
Mais beaucoup de Tunisiens disent, bah, c'est pas grave, de toute façon, il y a la France. Moi, je suis plus la France qu'autre chose.
Okay.
Parce que la France est cosmopolite. Il va y avoir des Tunisiens, il va y avoir le Maghreb
vrai.
Va être représenté aussi. Dans la France, c'est une image, c'est un miroir de la France.
Le Canada a quasiment la même chose aussi, le côté très cosmopolite. Quand tu vois l'équipe versus d'autres pays où, c'est drôle, c'est mon père qui disait ça. Il dit, quand tu les vois, les équipes, il y en a qu'il va y avoir de tout, puis il y en a d'autres, c'est très typé, là. Tu les reconnais.
Oui. Absolument. Puis justement, ça, d'être bi-équipe, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que j'espère que le Canada se rende loin pour pouvoir donner la piqûre aux gens. Parce que plus la piqûre est forte, dans 4 ans, là, les gens, à un moment donné, ils vont s'ennuyer de la Coupe du Monde, vont dire « Hey, c'est quand la Coupe du Monde? » Et c'est quelque chose qui n'arrivait pas jusqu'ici.
Crois-tu au fait que le Canada puisse continuer à avancer ou avec le match de dimanche, on est déjà un peu au-dessus de nos têtes?
On peut avancer. Le match de dimanche, là, on était supposé, théoriquement, on allait jouer contre la Corée du Sud. Et la Corée du Sud s'est faite battre par l'Afrique du Sud, qui avait eu un très mauvais début de parcours. L'Afrique du Sud, c'est une surprise qui se retrouve pour dimanche. Donc, oui, c'est une équipe qui est prenable, mais c'est une équipe qui a été capable de faire face à l'adversité. Et donc, il ne faut pas les prendre à la légère, mais c'est une équipe qui est accessible pour le Canada.
Vu le match qui s'en vient dimanche, l'attitude dans le vestiaire de l'équipe du Canada est comment par rapport au dernier match contre la Suisse? Parce que moi, ce match-là a terminé, puis j'étais excessivement fier qu'on se soit tenu debout, puis parce que ça aurait pu finir 4-0 ce match-là, tu sais, avec ce qu'on avait sur papier, mais que ça finisse 2-1 avec la fin de match qu'on a eu en plus où le Canada a vraiment bourdonné beaucoup autour du filet de la Suisse. Du côté canadien, on est content ou on a une crainte? Comment on se sent dans le vestiaire?
Moi, comme fan, je trouve que cette résilience-là et cette capacité à faire face à l'adversité est vraiment intéressante parce que si tu perds 2-0, tu es en train de perdre 2-0 en début de la deuxième, tu n'as pas la mi-temps pour changer la tactique. Tu es en train de perdre 2-0 quand c'était 0-0, quand tu as embarqué en deuxième, demi. Normalement, il y a beaucoup d'équipes qui s'affaissent, qui ont peur, qui stressent. Le Canada, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais ils se sont dit, nous, on va se battre jusqu'à la fin. Et ça aurait pu finir 2-2, finalement.
Ben oui.
Fait que le vestiaire, je le sens heureux, uni. Je sens qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver. Et dans toute cette triste malchance qu'a été la blessure de Koné, je trouve que l'équipe est plus unie qu'elle l'était au début de la Coupe du Monde.
Tu as parlé de Koné, puis je me permets de te poser la question parce qu'on en a parlé de ça lors de ton passage ici à Boulevard il y a quelques semaines. Mais j'aimerais ça que tu nous résumes un peu l'histoire de ce gars-là puis comment il s'est retrouvé chez les pros. parce que c'est quand même vraiment une belle histoire que peut-être peu de gens connaissent parce que là, plusieurs nouveaux amateurs de soccer. Mais comment un Koné s'est retrouvé à jouer en Ligue professionnelle et là, représenter le Canada aujourd'hui?
Mais c'est une magnifique histoire, oui, parce que c'est quelqu'un qui a joué dans les rangs amateurs pendant très longtemps jusqu'à ce que le CF Montréal fasse mais qui est
ce gars-là?
Ce gars-là, ouais. Puis là, ils l'ont fait jouer en un an et demi. Lui, il a joué son premier match pour le CF Montréal. Le mois suivant, il jouait son premier match pour le Canada. Et un an et demi après, là, tout le début de cette aventure-là, il était en championship en Angleterre, joué pour Watford et valoir plus que 10 millions de dollars canadiens. Là. Mais c'est un joueur qui était complètement hors du radar. Puis ça, c'est un bon exemple, c'est une bonne histoire pour expliquer pourquoi c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui avec le soccer au Québec. Parce qu'en 2025, là, on a tout restructuré les ligues qui était, c'était un peu un chaos, mm-hmm. parce que la nature a horreur du vide, donc on s'organise comme on peut. Le soccer est un sport super populaire au Québec pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est pas cher.
Abordable, ben
donc,
oui.
Comme c'est abordable, on inscrit nos enfants là-dedans, mais finalement, on aime ça. Finalement, on se développe, on est meilleur. Puis il y avait, en 2024, 200 000 athlètes amateurs au Québec, gars-filles qui jouaient au soccer.
Qui jouaient au soccer.
Et c'était déstructuré. Tout le monde faisait du mieux. Chaque région se structurait à sa façon. Mais là, depuis 2025, on a créé une pyramide où le parcours d'un joueur et d'une joueuse est linéaire. On sait vers où on s'en va et on sait où trouver les joueurs et les joueuses. Fait qu'on n'a pas d'histoire. Moi, je crois que d'ici quelques années, on n'aura plus d'histoire où on a échappé des gens puis qu'on n'a pas vu des gens qui jouaient à côté du stade, puis qu'on est allé chercher, mettons, un joueur en Amérique du Sud pour très cher, quand on avait Ismaël Koné qui jouait dans un parc à Longueuil. Ben, là,
parce que, tu sais, j'ai l'impression que, puis je veux que ça soit bien interprété encore là ce que je vais dire, mais une histoire comme celle de Koné ici au Canada, j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire chez les pros dans n'importe quel sport qui peut arriver dans des pays plus défavorisés. Ou est-ce que le kid va jouer
dans... Il n'y a pas eu d'opportunité avant, peut-être.
Il va jouer dans une ruelle, c'est ça. Puis il est super bon, il est vraiment talentueux, mais il n'a pas eu la chance au niveau académique parce que ses parents n'avaient pas les sous pour l'envoyer au collège ou à l'université. Puis là, on est passé à côté, mais il ne faudrait pas qu'on échappe le prochain ou la prochaine connaît non plus, tu sais.
Non, mais souvent, dans tous les pays où le soccer a une grande importance, ce qui est intéressant, c'est que le soccer, souvent, c'est une structure. C'est quelque chose de très structuré.
C'est mieux fait qu'ici,
et on
ouais.
les aime, les joueurs qui jouaient dans la ruelle. Ouais. Puis que ces histoires-là, il en pleut au Brésil. Là, des gars comme Rivaldo, un ancien grand joueur brésilien qui venait d'un endroit super pauvre au Brésil, puis là, il est devenu super riche. Il a fait un gros bloc d'immeubles pour loger tout le monde de son village, tu sais.
Il y a des belles histoires.
Ouais. Ouais, c'est des histoires assez géniales au soccer, justement, vu que tu as juste besoin d'un ballon et de quatre briques pour faire les buts.
Oui.
Là. Tu peux te développer.
C'est ça. Puis souvent, on parle aussi de... Ça prend des souliers, mais il y a bien des endroits où est-ce que des fois, tu peux jouer même nu-pied quand tu commences aussi au soccer, au foot. En finissant, Andy, j'aurais envie de t'entendre sur la prochaine ronde. Ce qui nous attend, si tu avais une espèce de top 3 à nous faire de ce qu'il y a à surveiller, parce que moi, j'ai regardé un des matchs des Bleus, justement, de la France, avant le match du Canada contre la Suisse mercredi dernier. Un des matchs de soccer les plus excitants que j'ai regardé dans ma vie. Ça a tellement brassé. Les Français sont tellement rapides sur le terrain. C'est des passes. Ils roulent la balle. C'est incroyable à voir aller. Fait que les gens qui s'intéressent là, au soccer, peut-être pour la première fois, on suit le Canada, c'est sûr, mais dans les autres matchs, qu'est-ce qu'on a sous le radar?
Bien là, par exemple, dans une minute, c'est la France contre la Norvège. Puis ça va être un gros clash. Là, on parle de rapidité de jeu. Là, on va avoir deux équipes super rapides. C'est Mbappé contre Haaland. Haaland est sur le banc pour commencer ce match-ci, mais je suis convaincu qu'il va rentrer à un moment donné.
Parce que là, on est encore dans les phases de groupe. Là. On n'est pas encore dans les finales. Fait qu'il y a peut-être encore des choses qui peuvent se jouer à ce moment-ci où il n'y aura pas de surprise. Ceux qu'on savait qui seraient en 16e de finale sont déjà là.
Exactement. Il reste la moitié des groupes à décider. Il y a des matchs aujourd'hui, des matchs demain. Dimanche, on commence la ronde éliminatoire. Du côté du Canada, on sait qu'on va jouer contre l'Afrique du Sud et on sait qu'on va jouer contre le gagnant du match Pays-Bas.